بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين وبعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدنا علما يا كريم رب زدنا علما يا كريم رب زدنا علما يا كريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Donc j'ai fait en islam, nous continuons les programmes qu'on avait commencé concernant Ya'juj, Ma'juj, Gog et Magog. Et il me semble qu'on avait déjà fait 4 leçons, 4 drous sur Ya'juj, Ma'juj, 3 ou 4. Et donc ce soir, c'est éventuellement le 5e majlis. Et la dernière fois, on avait expliqué, on avait bien déterminé que Ya'juj, Ma'juj fait partie de la race humaine. On avait bien expliqué que Gog et Magog sont des créatures d'Allah, bien sûr, et ils font partie de la race humaine, et qu'ils descendent donc de Adam et de Hawa, contrairement à certaines opinions qui allaient vers l'autre sens, qui disaient que Gog et Magog, Ya'juj et Ma'juj descendraient uniquement de Adam alayhi salam sans Hawa, c'est-à-dire à partir du sperme de Adam alayhi salam qui a été mélangé avec de la terre, et à partir de ce mélange on pourrait dire est né Ya'juj et Ma'juj. Mais cette opinion va à l'encontre des textes authentiques. Et donc, on avait prouvé les hadiths qui expliquent que Adam alayhi salam et Hawa alayhi salam, donc, dans leur descendance, il y a les êtres humains, et parmi les êtres humains, il y a Ya'juj et Ma'juj. Et on avait vu également que Ya'juj et Ma'juj descend donc de Nuh alayhi salam. Il descend de Nuh alayhi salam. Et particulièrement, de quelle race parmi Nuh alayhi salam? On a vu qu'il y a 4 descendants. Il y a 3 descendants chez Noé, Nuh alayhi salam. Il y a Sam, et de son fils Sam est née la race arabe, les Perses et les Romains. Et quand on parle des Perses aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle le Proche-Orient. C'est bien ça, le Proche-Orient, l'Iran, etc., cette région du monde. Et parmi les enfants, la descendance de Ham, il y a les personnes de couleur de peau noire. Et parmi les descendants de Yafith, il y a les Turcs, et il y a entre autres donc Ya'juj wa Ma'juj, donc descendant de Adam Hawa alayhi salam, descendant de Nuh alayhi salam, dans la branche de Yafith. On avait vu également que c'est une population qui est certes humaine, mais qui a certainement une espérance de vie qui dépasse de loin n'importe quel être humain contemporain. Alors là, c'est une supposition, ça n'engage rien, il n'y a pas de hadith, il n'y a pas de verset ou de... Je ne sais pas s'il y a des opinions de grands savants ou de pieux prédécesseurs à ce propos, mais descendant de Nuh alayhi salam, peut-être qu'ils ont, que génétiquement, Wallahu alam, je m'avance, d'accord? Peut-être que génétiquement, ils ont gardé les caractéristiques des gens à l'époque de Nuh alayhi salam. Et là, on parle surtout de l'espérance de vie. Nuh alayhi salam avait invité son peuple vers la religion d'Allah combien d'années? 1050, 950 années. Et on a vu que lorsque un de ces individus, Ya'juj ou Ma'juj, meurt, on a vu la dernière fois, il a déjà laissé une descendance de plus de 1000 personnes. Alors, s'ils ont les mêmes caractéristiques que les êtres humains, et que donc, on verra qu'ils ont, ils se marient, ils ont femme et enfants bien sûr, que leur femme porte les enfants 9 mois, ça veut dire qu'ils ont une espérance de vie semblable au peuple de Nuh alayhi salam, pour pouvoir enfanter 1000. En moyenne, à la moyenne, le nombre d'enfants moyen par Gog et par Magog est de 1000 enfants. Donc s'ils ont les mêmes caractéristiques que les êtres humains, ça veut dire obligatoirement qu'ils ont une espérance de vie proche de la population de Noé, de Nuh alayhi salam. Ou alors, que bah même ça, même si à chaque fois c'est des quintuplés ou sextuplés, je ne sais pas quoi, mais pour arriver à 1000, il faut vraiment une espérance de vie. Ou alors la période de gestation est inférieure, mais là ça voudrait dire qu'ils n'ont pas les mêmes caractéristiques que les êtres humains. Et ça on ne peut pas dire, parce qu'ils descendent de Adam et de Hawa, alayhi salam, il n'y a aucune raison qu'ils soient différents. Et on écarte directement toutes les thèses, les affabulations concernant leur description physique. Ça, on va voir aujourd'hui, Inch'Allah. Donc, à partir du moment où on écarte tout ce qui est un peu fantasme sur Gog et Magog concernant leur grandeur ou leur petitesse, ou alors la grandeur de leurs oreilles ou leurs trompes ou je ne sais quoi, ça nous ramène vers des êtres humains, comme vous et moi. Et si on atteste qu'ils sont des êtres humains comme vous et moi, il n'y a aucune raison qu'ils aient des périodes de gestation différentes. La seule possibilité, c'est que leur espérance de vie soit plus longue que la nôtre. Mais ça, on s'avance. Ça a l'air d'être une interprétation plausible. Et puis, tout est dans les mains d'Allah. Si Allah n'a pas jugé bon de nous dire exactement combien de temps ils vivent avec précision, à moins qu'il y ait des textes. Et s'il y a, peut-être, je ne les ai pas vus, ou Wallahu alam. S'il y a pas, si le Prophète ne nous a pas informé, c'est qu'il n'y a aucun intérêt à le savoir. Mais juste comme on aborde, hein, parfois il y a des chiffres qui choquent quand on parle d'une personne qui a 1000 enfants, on se dit, ben, humainement, c'est pas possible. Alors qu'on est en train de prouver qu'ils descendent de Adam al-Sin. Donc on essaie d'arriver vers une interprétation. Comme on avait fait une interprétation il y a quelque temps, et on verra dans un instant aussi, concernant le lieu où ils se trouvent. Comment est-ce qu'une population de milliards d'habitants peut se concentrer dans une région de monde, de région du monde pardon, aussi restreinte? Si on dit qu'ils sont tous concentrés en Asie, on peut accepter qu'il y ait des milliards de personnes qui restent dans un endroit. Mais quand on sait qu'ils ne sont pas exactement en Asie, ils sont dans tel endroit, et en plus cachés, on se dit qu'il aurait fallu au moins le quart de la surface totale du globe terrestre pour que tous ces individus puissent vivre humainement. Donc il y a une incohérence, il y a quelque chose qu'on n'arrive pas à comprendre, et donc on essaie parfois de faire des ta'wil, des interprétations qui ne sont pas forcément les bonnes, mais on essaie parfois de comprendre. Mais le plus important, c'est l'acceptation des textes. Ce qu'on avait vu en dernier, le dernier hadith qu'on a vu la dernière fois, mais très rapidement, et c'est un hadith qui est magnifique, hein, que j'aimerais qu'on relise ensemble. Hadith magnifique, hein, qui explique comment est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a organisé la création. Et ce genre de hadith, lorsqu'on lit, on se rend compte de la grandeur d'Allah, bien sûr, et on se rend compte de la grandeur de sa création, de ce qu'Allah a créé. Et qu'est-ce que nous représentons, nous, auprès de la création d'Allah? Il y avait une image qui circulait sur Internet, entre autres sur Facebook, magnifique, hein, que j'aime bien. On montre la voie lactée, on montre les différents systèmes solaires, et puis on montre les planètes, et puis on montre où est la Terre. C'est vraiment un point, c'est vraiment un point dans le système solaire. Et vous savez que dans l'univers, il y a plusieurs systèmes solaires. Et Allah seul sait qui c'est qui habite dans ce système solaire. Allah, il est, alhamdulillah, rabbil alamin, le Seigneur des mondes. Allah a créé notre monde, Allah seul sait qui l'a créé, qui a-t-il créé. Et donc on voit que la planète Terre représente un grain de poussière dans le système solaire, un grain de sable. On se dit que nous, on est qui? Qui sommes-nous pour oser désobéir Allah Azza wa Jal? Ce sont les gens hadiths, donc on va rappeler, ça renforce l'iman sur la grandeur de la création d'Allah, et ça nous conforte dans le fait que nous ne représentons rien. Et que qui sommes-nous donc pour ouvertement désobéir à Allah Azza wa Jal? C'est pour ça que le Prophète m'a dit qu'il y a vraiment une catégorie de personnes qu'Allah n'aime pas. Il y a vraiment une catégorie de personnes qu'Allah ne pardonne pas. Allah ne pardonne pas parce qu'il ne les aime pas. Les mujahideen, ceux qui font les péchés ouvertement. Ça, on avait expliqué la dernière fois aussi. Ceux qui font alaniya. Il y a la personne qui désobéit à Allah en cachette. La personne qui va se cacher pour désobéir à Allah. Ça, c'est un degré de pécheur. Cette personne désobéit à Allah, dépasse ses limites, mais intérieurement, elle a la honte. Il y a le haya, il y a la honte de désobéir à Allah, qui fait que la personne ne va pas afficher son péché devant tout le monde. Après, il y a ceux qui le font ouvertement. Celui qui s'en gêne, samedi, l'heure de Salat al-Asr, il va passer devant la masjid, avec sa copine, main dans la main, devant la masjid Nour al-Islam, sans se préoccuper de son péché, sans réaliser qu'il passe près d'un lieu où les gens se soumettent à Allah, et lui il est en train de montrer à Allah, na'oudhu billah, qu'il n'a peur de personne, qu'il ne craint pas Allah, et il passe devant les gens qui viennent à la salah. Ça c'est une, Allah musta'an, une réalité. Donc la personne, le Prophète me dit que la personne qui fait le péché ouvertement, cette personne-là n'est pas pardonnée. Une personne qui va en boîte de nuit, c'est la grande question. C'est pas la grande question, la réponse on l'a tous. Une personne qui va en boîte de nuit, Allah musta'an, je crains que cette personne fasse partie des gens qui pêchent ouvertement. Dites-moi, quand on va en boîte, on est seul? Vous êtes pas tout seul. Vous avez apparemment, on connaît. Quand on va en boîte, on n'est pas tout seul, il y a plein de gens. Ça veut dire que quand je suis dans une boîte et que je me déchaîne, c'est que je suis en train de faire le péché, je suis en train d'écouter la musique, je suis en train de danser et en option boire. Et dans un endroit, il y a des femmes qui ne sont pas toutes mes mahrams, je pense, d'accord, et qui ne sont pas tous couvertes sur sa table, hein, qui n'ont pas tous ses cheveux couverts, je pense également. Et surtout, tous ces péchés-là, je suis en train de le faire ouvertement. Si j'écoutais ma musique, enfin, ça ne veut pas dire que c'est autorisé, mais quelqu'un qui met son casque et qui écoute ce qu'il écoute, ou quelqu'un qui s'enferme chez lui et il boit, quelqu'un qui s'enferme, il fume sans un mal ou autre chose. Bref, ce sont des gens qui font des péchés, mais ils ont ce haya, cette pudeur qui fait qu'ils ne vont pas le faire devant tout le monde. Mais cette personne qui va en boîte, il va boire, et très souvent c'est connu, les tables réservées et tout, bref, il va boire devant tout le monde, il va danser devant tout le monde, il va écouter la musique devant tout le monde, il va draguer devant tout le monde. Maintenant, est-ce que ça veut dire qu'Allah ne le pardonnera jamais? Je ne dis pas ça. Ça ne veut pas dire que ces jeunes-là, ils sont là, wallah. Maintenant, s'ils retournent auprès d'Allah, ils demandent tawbah sincèrement. Allah, arhamur rahimin, ghafur rahim, Allah, il connaît mieux les faiblesses de l'homme, des êtres humains. Allah connaît mieux le contexte dans lequel nous vivons, la difficulté qu'il y a à rester ferme dans les bonnes actions, à rester éloigné des péchés. Il n'y a jamais une époque dans l'histoire de l'humanité, on pourrait dire, mis à part l'époque de Lourdes, alayhi salam, où le degré de perversité avait atteint son summum, son paroxysme. Mais je pense qu'on est en bonne voie pour attraper le peuple de Lot alayhi salam. On est en très bonne voie pour attraper, Allah musta'an, le peuple de Lot alayhi salam. Allah musta'an. Et donc le hadith qui nous intéressait, oui, donc quand on voit cette image, hein, ce que représente la planète Terre par rapport au système solaire, on se rend compte qu'on n'est rien du tout. Et qui suis-je, moi, pour désobéir à Allah volontairement? Il y a un autre point également qui nous permet de réaliser la grandeur d'Allah, parce que c'est vraiment ça qui nous manque de nos jours. Tout se résume à ça. L'intégralité de nos questions, de nos problématiques, mis à part les questions de fiqh, mis à part les questions de jurisprudence, quelqu'un veut connaître un masque, ça c'est autre chose. Mais la plupart des problèmes spirituels tournent autour de notre cœur qui est vide. Le cœur du musulman qui est un cœur de mu'mine, il y a la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, mais ce n'est pas un la ilaha illallah qui remplit les conditions. Ce n'est pas un la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, comme les sahaba, ridwanullah, alayhim ajma'in, le lisaient, et la lecture de cette kalimatu tawhid les faisait réaliser le but pour lequel ils ont été créés. Et quand ils savent qu'ils doivent se soumettre à Allah, ils comprennent immédiatement qu'on ne peut se soumettre à Allah tout en faisant des péchés. Ça, c'est deux choses opposées, ça. Je ne peux pas me dire que, oh Allah, je t'obéis quand je baisse la tête et quand je lève la tête, je le désobéis. Ce n'est pas possible. C'est un comportement contradictoire. Donc, l'essentiel de nos problématiques concernant toutes les générations, concernant les jeunes avec les problèmes, les péchés qu'on vient de citer, concernant les générations, on va dire 20-30 ans, qui rencontrent d'énormes problèmes concernant la vie de couple, avec dernièrement on faisait la remarque avec Salih qu'à chaque fois qu'on doit faire les quads arabes, je dis soit il y a mariage. Salih me dit à chaque fois on annule quoi? Oui, il dit on ne va pas empêcher les gens de se marier, on est content les gens se marient, donc on annule les quads, alhamdulillah. Mais nous on voit beaucoup de mariages, mais je crains qu'il y ait plus de talaq que de mariage. Il y a un nikah, allez, on va dire un par mois ou deux par mois, mais les talaq il y a de manière hebdomadaire, Allah musta'an. Ce n'est pas l'endroit pour citer les cas ou les problématiques, hein, qui font que les couples se séparent, mais parfois ça se résume à des enfantillages. Ça se résume à des enfantillages, à des caprices d'enfants qui n'ont pas grandi. Allah musta'an. Parfois ça peut être la faute des parents, hein, on n'incrimine pas les parents. Parfois ça peut être les parents qui ont trop couvert. En général, les parents, ils couvrent les garçons, pas les filles. Parent qui a trop couvert le garçon, qui a trop donné d'affection, qui fait que le garçon n'a pas épanoui, il s'est pas épanoui et moins de problématiques, et il voudrait que sa femme agisse avec lui de manière aussi parfaite que sa maman le faisait, alors que sa maman elle a 30 ou 40 ans de plus, elle a une expérience tant culinaire que dans la préparation du foyer, que tout ça. Sa femme a 22 ans, 23 ans, même âge, même rêve. Ces jeunes qui rêvent, ils vont se casser la figure, Allah musta'an, avec la crise, avec l'euro, excusez-moi d'être pessimiste, mais Dieu seul, Allah seul sait de quoi sera fait l'avenir de notre Ummah, sur le plan matériel. Maintenant, la seule chose qui peut nous sauver, c'est spirituel. Donc, cette jeune fille qui a le même âge que nous, le même âge que ce jeune homme, d'accord, mais il ne peut pas atteindre le même niveau qu'une nanny ou une grand-mère ou une kala, etc., qui, alhamdulillah, elle a 30, 35 ans, 40, 50 ans de mariage. Donc, très souvent, les ruptures, c'est dû à une éducation qui a été donnée mais qui n'a pas pu permettre au garçon de prendre ses responsabilités, de devenir mature, de devenir maître de ses faits et gestes, de pouvoir prendre les décisions. Parfois, quand les parents couvrent la fille, c'est que les parents donnent leur fille en mariage, mais consciemment ou inconsciemment, c'est comme si qu'il y a une petite ficelle qui reste amarrée. Que moins de problèmes, tu reviens à la maison, c'est pas un souci. Ça, c'est la pire des choses. Des parents qui font comprendre à leur fille que la case papa-maman est toujours ouverte. Oui, toujours ouverte, viens manger, viens causer, viens. Mais ne jamais donner cette ouverture à une fille, de dire que ton mari te dit quoi que ce soit, il te fait n'importe quelle remarque, il lève la voix, tu quittes ta maison, tu viens chez nous, tout de suite. Mais malheureusement, il y a des parents qui le font. Et c'est une des raisons, je vais pas dire principale, mais une des raisons pour lesquelles les couples ne tiennent. Bref, on va pas, c'est pas le but. Mais c'est ce qu'on va dire, c'est également la solution pour cette tranche d'âge, entre 20 et 30 ans. C'est également la solution pour les générations, on va dire les seniors, les plus âgés, qui parfois retombent dans certains péchés. Comme dit, à un certain âge, mastie relève. Au-delà de 40 ans, parfois, il y a les mauvaises habitudes qui reviennent et tout. Peut-être parce que madame finit fatiguée, finit fait son temps, et le bug, je sais pas, il boit Red Bull trop le matin, ou vomitine, je sais pas quoi. Et donc, parfois, il y a des instincts, parce qu'on reste quand même des hommes, alhamdoulilah, tant mieux. Bref, la solution à l'intégralité des problèmes, la solution pour le problème de ce commerçant aussi, qui veut agrandir sa boutique, ou qui veut augmenter son chiffre d'affaires, qui veut acheter une franchise, je ne sais pas si ça achète une franchise ou comment ça se passe, bref, qui veut émanciper son commerce, mais qui se trouve bloqué parce qu'il n'y a pas de finance islamique, il n'y a personne pour lui prêter de l'argent, et qui se dit intérieurement que de toute façon, mis à part la banque, c'est pas Moufti Saab qui va me prêter de l'argent. Donc, vous ne proposez rien, j'ai recours à ça. C'est la solution pour son problème aussi. Parce qu'on aura beau l'expliquer que l'intérêt c'est haram, même si tu estimes que de nos jours ça fait partie des règles du commerce, attention, avant nous il y en a qui ont dit la même chose. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا. Des gens qui ont dit que le commerce, l'intérêt, ça va, sem, c'est pas sem. La solution à cette personne pour qui on a mis en garde, attention, l'au-delà, les châtiments contre l'intérêt, la résurrection, on est ressuscité comme des malades, comme des personnes possédées, alors qu'en face de toi, il y a ton voisin, il y a ton père, il y a peut-être ton fils qui est sous l'ombre du trône d'Allah parce qu'il a vécu dans l'obéissance d'Allah. Toi, tu es ressuscité devant l'humanité comme une personne possédée. Vous savez, comme vous avez déjà vu un SDF dans la rue qui crie, qui machin et tout ça. Pareil, nasallallahu alayhi wa sallam. Qui c'est qui va être ressuscité comme ça? Un notable. J'ai horreur de ce mot. J'ai horreur de ce mot, notable. Hein, quelqu'un dans la société, quelqu'un d'important, hein, qui est au poste de la société, d'accord, et on le voit, sa grosse voiture et tout, etc. On se dit que c'est quelqu'un de respectueux. Oui, il est respectueux là. S'il a gagné sa fortune nettement, alhamdoulilah, on a husnouddan, bonne pensée. Mais lui, s'il sait que tout ce qu'il a construit, c'est sur le riba, sur l'intérêt, que cette personne se prépare à être ressuscité comme un fou, comme un possédé, le jour des comptes. Ça, c'est pas Moïse Sab qui dit qu'à la main c'est fini, hein? Non! Ça, c'est Ayat Quran. C'est quoi encore le verset? Ya ayyuhalladhina amanu la ta'kulu riba da'afa mudha'afa. Après? Non, c'est pas ça. C'est un autre verset. Alladhina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbatuhu ash-shaytanu min al-mass. Nasrullah al-afiya. Les gens qui sont possédés par le diable. Que la personne se prépare à ça. Parfois, il faut électrocuter les gens. On va dire électronarcose, il faut être un peu moins sévère. Il faut que les gens comprennent l'ampleur des péchés. Les gros péchés dans la société, c'est quoi? Clairement. Faisal, c'est quoi les trois gros péchés de la société? Non, dis l'intérêt, oui, après. Le zina, oui. Le troisième. Hein? Shirk, non, quand même pas. On parle de notre communauté à nous. Hein? Ribat? C'est gentil. C'est très gentil. Calomnie, très gentil. Très gentil, jalousie. Hein? Négligence dans les prières? C'est grave, mais c'est pas ça. Adissab. Zulm. Oh là là, Zulm a tellement, il va plus. Sihr. Jadou, sorcellerie. Les trois grands mots de la société. Sihr, zina, et qu'on a dit ? Riba. Ça, c'est les trois mots de la société contemporaine. Et on pourrait dire que c'est les mots de toutes les sociétés musulmanes. Wallahu musta'an. Et tout ça, c'est basé sur une ignorance totale d'Allah Azza wa Jalla. La solution à tous ces problèmes, plutôt que de montrer à ces gens point par point telle action, c'est tel péché, telle conséquence, le jour de rien, etc., etc., la base, l'origine de subhanallah, cette pratique aveugle des péchés kaba'ir, font tous partie des mubiqat, des péchés destructeurs. Le problème à la base, c'est l'absence de crainte d'Allah dans le cœur. Que le mu'min, il ne sait pas ce qu'est Allah. Demande à un musulman, assieds-toi 5 minutes, parle-moi d'Allah. À part ceux qui, hein, ils ont l'habitude un petit peu de parler du dîn, mais qu'une personne explique qui est Allah, quelle est la grandeur d'Allah, quel est notre rapport, quel doit être notre rapport avec Allah, les gens ils peuvent pas. Allah musta'an, sallallahu alayhi wa sallam. Demande n'importe qui, dit le 11 d'Espagne ce soir, il te dit par ordre alphabétique. Donc la solution à tous ces problèmes, l'origine des problèmes, pardon, c'est une absence totale. Le mu'min ne connaît pas qui est Allah. Comme on a dit que la personne qui consomme du riba, l'intérêt, qu'elle se prépare dès maintenant. Maintenant, je ne le condamne pas. On va dire que les moulissabis condamnent et tout. Non, c'est qu'on explique c'est quoi la mise en garde du Coran. Maintenant, si la personne demande Tawbah à Allah, ça, Allah, Akbar, Allah, il pardonne tout. Mis à part le shirk. Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma dun dhalika liman yasha. Maintenant, si la personne se dit, attention, parce qu'Allah, la ta'khudhu sinatun wa la nawm, Allah il dort pas, mais dormir c'était de le sens propre. Si quelqu'un se dit, bon, riba là c'est un gros problème, c'est un gros péché, mais en même temps, il a des gros revenus. Donc je prépare mon tartuit, on appelle ça, prépare mon plan. D'accord ? Déjà, le plan, c'est de, vous connaissez, en général, c'est de 15 à 25 ans. C'est la fiesta. C'est carte d'abonnement à la villa, carte d'abonnement, je sais pas quelle boîte de nuit, etc., etc. 25 ans, katak, on se range, on se marie. Jeudi soir, masjid dans film, on dit ça, on fait bayan, elle fait nazam, elle chante des coups, elle fait un Gangnam Style pour moi, un bayan, etc. Après, il finit avec ça, là, il pardonne ça. D'accord ? C'est planifié, ça. 25 ans, je me marie. D'accord ? 25 à 35 ans, à 40 ans, on va dire, Razabab, parce que jeune homme et tout, besoin de bien me présenter et tout et tout. À 40 ans, on commence à faire un petit scotch. Les Français ils parlent de scotch, c'est vrai. Un petit barbe. Et puis peu à peu, plus je vieillis, plus je dépéris, plus je laisse les signes de la vieillesse apparaître aux gens. Et puis à la retraite, c'est quel âge, 60, 75, 85 maintenant, je ne sais plus. À l'âge de la retraite, ben là, je commence à venir salat régulièrement. Il me laisse mon bas pousser, et puis, khalas, je me mélange au tcha-tcha, je deviens un tcha-tcha. D'accord ? Un tcha-tcha sans passer seulement. D'accord ? Je me mélange à tout le monde, et puis, ben, il fait hajj, il fait umra, il fait kaskarem, il fait doua, imam, taravi, il fait doua, il dit, amin, il crie fort, qu'Égyptien, il vient, il dit à Quran, il crie Allah, Akbar. Allez, il mélange tout à Allah, il rentre tout dans le paradis, hein. Quand il laisse choses et simple comme ça. Alors donc, la personne, pour l'intérêt aussi, il se dit, donc c'est hypothétique ça, c'est pas quelqu'un qui existe, hein, excusez-moi. Il dit que ben voilà, l'intérêt, hein, ça me permet d'avoir de l'argent cash, ça me permet de mener à bien mes projets. Voilà, je vais utiliser riba jusqu'à l'âge de 40 ans. Investir, emprunter avec la banque, TLA, la banque X, Y, Z, etc. Fait construire les bâtiments, ils poussent comme champignons, les centres, les magasins ici à droite, à gauche, les franchises, il achète ça, il représente ça. Il a eu beaucoup. Et à l'âge de 50 ans, il a déjà tout remboursé. Et à 50 ans, il s'arrête. S'arrête net. Une fois j'étais chez un notaire, Allah yarhamou, une personne, point, quelque chose. Puis une personne disait que, il a dit oui, il a besoin de signer un contrat. Et il faut deux témoins. On était là, c'était un musulman, un musulman. Il m'a dit, moi non, ben, les témoins, ah ouais, avec un tel. Il m'a dit, c'est quoi de qu'on travaille? Il a dit, non, m'a acheté un cas, là-bas et tout. Il m'a dit, il y a l'intérêt dedans. Il a dit, oui, mais finis ça, fin de mon tauba, c'était fini, c'est le dernier. Il m'a dit, c'est le dernier. Il m'a dit juste, parce que devant le notaire, apparemment, il faut qu'il y ait deux témoins. D'accord ? Donc, je dis non. Il y avait un proche, quelqu'un de ma famille aussi, qui attendait ma position. Je dis non. On a beau avoir fait affaire, chez certaines choses, mais ça non, ça c'est un mu'amala qui n'est pas autorisé. Donc j'ai dit non, Wallah, c'est la personne décédée, Allah yarahim, Allah lui accorde les plus hauts degrés d'El Paradis, lui accorde son pardon. Donc si une personne se dit que jusqu'à 50 ans c'est bon, il a tout remboursé, et il a plein de choses maintenant. Et de son cœur, il est content. Ça, c'est pour Mohamed, c'est pour Ismaël, pour Fatima, pour Aïcha, pour Bibi, pour 4-10 ans, et tout ça. Et chacun fait une son séparation, ce qu'on appelle ça, son partage. D'accord? Et là, c'est à dire Allah, tawba, Allah, tawba, astaghfirullah. Là, il s'affiche hajj, il s'affiche umrah, tous les ramzans, tous les hajj et tout. Vous pensez qu'Allah, il dort? Vous pensez que toutes ces années, Allah, il ne connaissait pas? Différence entre quelqu'un qui faisait le péché par soit inadvertance ou qui suivait son hawa, mais après il a vraiment pris conscience de son erreur, il est retourné sur le droit chemin, il a arrêté. Et quelqu'un qui se dit je vais faire ça, et après je demande pardon, et puis Allah va pardonner, mais entre temps j'ai eu tout ce que je voulais. Comme la personne qui dit que je vais me faire les plus belles filles du quartier ou les plus belles filles de telle région, et quand j'ai fini, excusez-moi, langage un peu cru, après je demande tawba, j'arrête de faire le zina. Différence entre lui et quelqu'un qui a eu le coup de foudre et qui est tombé dedans. Et qui après il s'est rendu compte que ça c'est un péché grave, il arrête, il demande Tawba à Allah avec sincérité, il le recommence. Allah il connaît les catégories de pécheurs. Mais en finalité Allah est pardonnant. Quand on a mis en garde la personne de riba, l'intérêt, personne qui fait le sihr également, ça me dit que celui qui va voir ce genre de personne, faqad kafara bima unzala ala Muhammad. Il a renié ce qui a été révélé sur Muhammad. Que la personne se prépare à mourir kafir. Quand Malik al-Maut vient prendre son âme, qu'ils comprennent que Malik al-Maut vient prendre l'âme d'un kafir. J'ai beau lire le Coran, Fidhikrullah et tout, et tout, et tout, Malik al-Maut vient prendre l'âme d'un kafir. Ça fait partie des a'mal de shirk, de polythéisme. Et si on devait compter le nombre de personnes dans notre communauté qui a recours à ce genre de péché, Wallahu musta'an, qu'Allah nous protège. Un qui est jaloux de l'autre pour un mariage, ou alors parce qu'il a réussi, parce qu'il a eu telle franchise, parce que ce commerce marche mieux, parce qu'il est heureux. C'est un péché d'être heureux. Allah musta'an. C'est le conseil qu'on donne aux nouveaux mariés à maintenant. Je suis désolé, on est obligé de dire ça. Ne montrez pas aux gens que vous êtes heureux. Vivez heureux, mais chez vous. Marche pas dans la rue main dans la main. Fais pas ça, fais pas ça. Ne marchez pas dans la rue votre épouse main dans la main. Vous pouvez tomber sur un jahil, un ignorant, imbécile, mais qui a les moyens pour payer un truc, un sort, je ne sais pas quoi ça, quoi ça, qui va faire. On dit aux jeunes, vous vous mariez, alhamdoulilah, mettez pas vos photos sur Facebook. Pourquoi vous avez besoin de vous photographier le jour de la réception au Walima, côte à côte, comme ça, avec le grand queue et tout, des photos, ça circule. Ça apporte quoi? Est-ce que c'est ça la recette du bonheur? Là, wallah. Ça vous apporte que des problèmes. Déjà, la photo en elle-même, d'accord, on connaît le péché qu'il y a à travers ça. En plus, vous allez laisser des millions de personnes voir la beauté de votre femme. Où est le rire? Où est l'amour propre? Tout le monde voit ta femme? Est-ce que intérieurement ça, il n'y a pas quelque chose qui bloque? Si on voit ça comme quelque chose de tout à fait naturel, c'est qu'il y a quelque chose qui est mort dedans. L'amour propre, le rire, ça c'est mort. Une fois, un sahaba qui avait ouvert les rideaux de sa maison, le sahaba avait regardé à l'intérieur. Le prophète me dit, si j'avais vu que tu avais regardé, je t'aurais donné un coup dans l'œil. Ça me dit ça, ça m'a été choqué. Ça c'est rire, l'amour propre. N'est-ce pas n'importe qui regarde madame ou de fille? Ça c'est normal ça. J'ai pas de fille, mais si j'avais une fille de 14-15 ans, je vois un garçon en train de prendre sa main, l'entrelacer, je laisse pas. Ça c'est l'amour propre. Maintenant, si on a abandonné l'amour propre au nom de la liberté, comment? Liberté de? D'esprit, ouverture d'esprit, ou liberté d'expression, ou l'émancipation, na'oud billah. Mais ça c'est plus notre dîn ça. Ça, ce n'est pas les valeurs du mu'min. Et si après tout dégringole, on voit que notre société va dans tous les sens, les mariages ne durent pas, les enfants ne restent pas avec leurs parents, les jeunes filles fuguent, les garçons disparaissent, ils font l'adultère, ils boivent, ils se droguent, ils se shootent, les filles pareilles, et que notre fille se marie avec un kafir billah, avec quelqu'un qui n'a pas iman, et que ça va à droite, ça va à gauche, nos petits-enfants sont kuffars. Nos petits-enfants portent des noms de non-musulmans, ils n'ont pas la ilaha illallah, n'allez pas loin. Quelles sont les valeurs qui ont animé notre vie et quelles sont les valeurs que nous avons transmises à nos enfants? Et quelle était ma surveillance parentale? La surveillance parentale, c'est pas uniquement un code que tu mets sur CanalSat ou sur Parabole ou sur SFR, un code parental pour pas y regarder les chaînes 18 ans ou sur un programme internet et tout. C'est pas ça, surveillance parentale. Ça, c'est un truc technique, ça. Surveillance parentale, c'est faire en sorte que mes enfants ne dépassent pas les limites. Que mes enfants ne dépassent pas les limites. Et pour que les enfants ne dépassent pas les limites, on n'est pas obligé de retrousser les manches. Des gens qui se disent que pour les enfants ne dépassent pas les limites, il faut cogner. Non ! Il suffit d'observer les règles de tarbiya islamiya. Comme Ali ibn Abi Talib disait, 6 ans, 7 ans, votre enfant, vous donnez de l'amour et du temps. Qui donne du temps, de l'amour à ses enfants ? Qu'Allah me pardonne moi-même en premier. De 7 à 14, je ne sais plus si des tranches de 6 ou de 7. Chaque fois, je me trompe, c'est ce riwayat-là. La deuxième tranche, de 6 à 12, de 7 à 14, tarbiya. Éducation, éducation, éducation. C'est pour ça que le prophète dit, « Mourou awladakum bis-salam wa abna'ahum sab'an. » Ordonnez à vos enfants de prier quand ils ont 7 ans. Et essayez de les rappeler à l'ordre quand ils ont 10 ans, etc., etc. Là, c'est l'âge de l'éducation. Là, l'enfant est réceptif. Et après 15 ans, c'est votre compagnon. Après 15 ans, c'est votre ami. Dire votre fils devient votre camarade, le camarade du papa. C'est pas à 15 ans qu'on éduque. Ah ben, on se trompe. Si on pense qu'à 15 ans, Misa dit maman, bon, à cette heure, ou mettre une huile dans un coin, ou de PlayStation, mais non, viens faire namaz. Du tout. Si à 15 ans, si on commence à donner des ordres, il va mettre un point d'honneur à vous désobéir. Parce que c'est l'âge où on a besoin de s'affirmer. Adolescence, etc., etc. C'est l'âge où on a besoin de montrer notre personnalité. Et la première personne à qui on veut montrer qu'on est devenu un homme, c'est l'autre homme dans la maison, c'est le père. Lui montrer que je prends mes décisions. Ou au nom de quoi tu m'ordonnes de faire telle chose. Allah Mustan, après 15 ans, il n'y a plus de tarbiya. C'est fini. Allah Mustan. Donc, les trois grands mots de notre société, le sihr, le riba et le zina, l'origine de ces problèmes, c'est que le musulman ne connaît pas Allah. Le tawhid, l'unicité d'Allah, connaître Allah. Et on connaît Allah par le biais de la contemplation de l'univers, on voit qu'est-ce qu'Allah a créé. On connaît Allah par le biais de notre approche de l'au-delà, la grandeur des créatures d'Allah. Des hadiths qu'on avait cités une fois, la grandeur des anges qui portent le trône d'Allah. Un ange qui, depuis qu'Allah s'est établi sur le trône, istawa ala al-arsh, l'ange est en sijda devant Allah, jusqu'au qiyam. Et le jour de Qiyama, l'ange se relève par ordre d'Allah et dit « Subhanaka ma abidnaka haqqa ibadatik »« Oh Allah, toute pureté à toi, on ne t'a pas adoré comme tu le méritais. » Allah a des makhlouqat qu'il adore de la sorte. Parce qu'on décrit les porteurs du trône entre « Shuhmatu dhunayhi » entre l'aube de l'oreille jusqu'à « Atiq » jusqu'à son épaule. « Masirat » je ne sais plus si c'était 500 ou 700 années. Voyage, vol d'oiseau. Makhlouqa d'une grandeur qu'on ne peut pas imaginer. Et il tremble de peur devant Allah. Hadith dit que l'ange Israfil, Israfil c'est quoi son travail ? Souffler dans la trompe, dit pas trompette, hein, dans la trompe. Le joueur des comptes, pour le Qiyama et pour la résurrection, dit que depuis qu'Allah l'a créé, il a les yeux rivés vers le trône d'Allah. Et il n'ose pas cligner les yeux. Pourquoi ? De crainte que pendant ce laps de temps, Allah lui donne l'ordre de souffler et qu'il ne répond pas à l'ordre d'Allah. Crainte ! Crainte d'Allah, les malaïka. Et nous, on est qui pour désobéir à Allah délibérément. Allah musta'an. Qu'Allah ait pitié de moi, en premier, pitié de nous. Donc la solution à ces problèmes, c'est connaître Allah. Et le hadith qui est magnifique, hadith de Abdullah ibn Amr, radiallahu anhu, il dit que Inna Allah azza wa jal jazza al khalq ashrat ajza. On va relire le hadith. Allah a créé, a divisé la création en 10 parties. فَجَعَلَ تِسْعَةَ أَجْزَاءَ الْمَلَائِكَةِ 9 dixièmes de la totalité de la création, ce sont les malaïkas. Un monde qui nous est pour l'instant étranger, inaccessible, incompréhensible. Mais des créatures, لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ qui ne font qu'obéir à Allah. Mais c'est un monde que nous allons rencontrer le jour des comptes. Et pas forcément dans les meilleures conditions. Pour les gens pieux, oui. Mais le premier contact que l'homme a avec un ange, c'est quand ? Younous, premier contact. Malik al-Maut. Ça peut être bon comme ça peut être pas bon. Et si c'est un homme bon, avant Malik al-Maut, il y a 500 anges, cortège, qui lui annoncent là, bonne nouvelle, Bouchran. C'est pas ça notre rêve à nous ? Est-ce que c'est pas ça le rêve de chaque musulman, qu'au moment de mourir, il y a 500 malaïkas qui viennent, qui m'annonce la bonne nouvelle qu'Allah est content de moi et que l'ange Malik al-Maut il vient, il reprend mon âme en m'annonçant qu'Allah est satisfait de toi. Ya ayyatuha an-nafsul mutma'innah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Est-ce que c'est pas ça mon objectif? Voilà, mon objectif c'est casser mon voisin, c'est l'ensorceler, c'est faire zina avec la personne qui est belle, c'est gagner de l'argent avec la banque pour construire. C'est ça le but? Et puis quand l'ange al-Maut vient reprendre l'âme, qu'est-ce qui se passe? Quand je suis ressuscité, qu'est-ce qui se passe? Nas'alullah al-'afiya. Qu'est-ce qui fait qu'on ne comprend pas? Les textes sont devant nous. Il n'y a pas moins de textes qu'à l'époque des Sahaba. Le Coran, il est le même. Les hadiths, il y a presque la même quantité. Alors l'essentiel nous est parvenu. C'est la conviction sur les textes. Et c'est avant tout la croyance en Allah. On ne croit pas en Allah. Ce n'est pas qu'on est kafir. On ne croit pas vraiment, réellement en Allah. C'est-à-dire qu'il y a les shurut shahada, les conditions pour un la ilaha illallah. On a juste attesté qu'il n'y a pas d'autre Dieu à part Allah. Mais on n'est pas parti plus loin. Que cela, parmi les conditions, c'est aimer Allah. Et quand on aime Allah, on l'obéit, on se soumet à lui, et on ne le désobéit pas. Et on a conviction qu'on retourne auprès de lui. C'est tout ça qui manque. On a un maillon de la chaîne, je crois en Allah. Et quand un mu'min, quand un croyant ne connaît pas qui il adore, comment est-ce qu'il aura la crainte de ce créateur-là dans son cœur? Donc, revenir, Allah a créé donc la création et l'a divisé en 10. Un dixième, ce sont les malaïkas. Non. 9/10, pardon, ce sont les malaïkas. Wa juz'an sa'ir al-khalq. Et 1/10, c'est le reste de la création. Ensuite, Allah a divisé les malaïkas en 10 catégories. Et Allahu Akbar. Faj'ala tis'ata ajza' yusabbihuna al-layla wan-nahara la yafturun. 9/10 des malaïkas, ils font tasbih nuit et jour, nuit et jour, nuit et jour. Ils ne s'arrêtent pas. Ils ne s'arrêteront qu'au jour de Qiyam. 9/10, alors je ne suis pas trop fort en fraction, j'ai dû louper des cours quand j'étais en CP, en CM1, CM2. Sur 10, malaïka. Prenez cette fraction-là, 9/10. Ils font que les louanges. Donc, si on trouvait une proportion, hein, d'accord, une équation dans toute la création, ça fait, j'ai l'impression que ça fait 90% à peu près de la création d'Allah qui font que tasbihat du matin jusqu'au soir. Mais avec tout ça, Allah a besoin d'Ibrahim, de Salih, de Uzair, de Yunus, de Abdullah, de Qasim. Là, Allah n'a pas besoin de nous. Mais Allah a pitié de nous. Allah n'a pas besoin de nos ibadah. Allah n'a pas besoin de mon salat al-fajr, de mon lecture. Allah a pitié de moi. Allah veut me faire entrer au paradis et il me donne tous les moyens. Et tellement de moyens qu'il ordonne aux anges que si mon serviteur, si Faisal par exemple, avant de dormir, il fait le niya de faire qiyam ou layl tahajjud, inscrivez-lui la récompense de tahajjud. Même s'il ne l'a pas fait. Même s'il se réveille juste pour le fajr. Et s'il le fait, ça c'est hadith, hein, s'il le fait, que les anges écrivent au minimum 10 fois. Et ça peut aller, Allahu Akbar, un nombre qu'Allah seul le sait en fonction du contexte, difficulté, etc., etc. Par exemple, s'il sort de son travail, il arrive tard, il est épuisé physiquement, mais il veut faire son qiyamoulay. Bref, plus il y a mujahada, plus il y a des efforts, plus la récompense sera élevée. Allah, il veut tellement nous ramener vers lui, il veut tellement nous donner le Jannah qu'il a créé de ses propres mains, kama yaliqu bihi azza wa jal, qu'Allah ordonne aux malaïka également que si un de mes serviteurs veut faire un péché, n'écrivez rien. Le niya pour la bonne action est synonyme de hasanat, de récompense écrite. Le niya pour le péché ne veut rien dire, tant qu'il ne le fait pas. S'il le fait, écrivez une fois le péché. Et dans certains hadiths, il est même dit que les anges attendent avant d'écrire. Ils attendent peut-être qu'il va bientôt demander tawbah. S'il demande tawbah, c'est bon, on n'écrit pas. Et s'il ne demande pas, ben là, le péché est inscrit une seule fois. Et Allah demande même aux anges que si la personne, à la fin, il décide de ne plus faire le péché, Allah est tellement satisfait que la personne ne l'a pas fait par crainte d'Allah. Il est revenu sur sa décision. Que Allah ordonne aux anges d'inscrire une bonne action à la place du péché. Il n'a rien fait de bien, mais il avait une mauvaise intention et il l'a arrêté par crainte d'Allah. Allah est content de ça. Vous voyez comment Allah nous donne les armes. Allah nous donne toutes les possibilités pour obtenir le Jannah. Hadith al-Khalil, Allah Ta'ala dit que quand un serviteur s'approche de moi d'un empan, je m'approche de lui d'une coudée. Celui qui vient vers Allah, il fait un pas, Allah fait deux pas vers lui. Celui qui vient vers Allah en marchant, Allah vient vers lui en courant Dieu, mais comme Ayali Rubia Azza wa Jal. Ça veut dire que Allah, il attend un geste de notre part pour ouvrir en grand les portes du Qaboul, les portes de l'acceptation. Allah Azza wa Jal, hadith que Allah tend ses mains, comme il sait Allah, comme Ayali Rubia Azza wa Jal, le matin pour que les gens se. Ils demandent tawbah. Et Allah tend ses mains le soir pour que les gens demandent tawbah. Ils demandent le soir, Hal min mustaghfirin. Est-ce qu'il y a des gens qui demandent istighfar? Que je leur accorde l'istighfar. Ça, c'est la grandeur et la clémence d'Allah. Et ça, c'est la création d'Allah. Je suis un milliard de milliards de milliards de milliardième de la création d'Allah. Et je désobéis à Allah plus que 90% de ses créatures, tous associés. La ilaha illallah. Au nom de quoi? Quel droit? Quel haya? Quelle crainte? Quel amour pour Allah? Et on continue donc. Et wajazza al-khalqa, ensuite, le 1/10 de la création. Allah en a fait 10 catégories. On va aller un peu plus vite. فَجَعَلَ تِسْعَةَ أَجْزَاءَ الْجِنِّ وَجُزْءًا بَنِي آدَمَ. Parmi les... Là, on est 1 sur 10. Allah a divisé en 10. 9 sur 10, ce sont les génies. Les djinns. Et 1 sur 10, ce sont les êtres humains. وَجَزَّاءَ بَنِي آدَمَ عَشْرَةَ أَجْزَاءَ. Dans ce 1 dixième de dixième, Allah a fait 10 catégories. Et Allah a fait 9 sur 10, Gog et Magog, et 1 sur 10, l'être humain, les Banu Adam comme nous sommes. Donc ça, on est peut-être à peu près 1 sur, Allah Akbar, peut-être 1 centième, nous représentons, je ne sais pas, 1 centième de la création. Ce hadith nous montre l'étendue du mulk, l'étendue de la création d'Allah subhanahu wa ta'ala. Je pense qu'on va s'arrêter là aujourd'hui, Inch'Allah. On n'a pas fait grand-chose, en fait. On n'a pas beaucoup avancé dans Gog et Magog. On a juste fait un petit récapitulatif. Mais ça, c'est important. Ça, c'est la base. Et comment le mu'min, il connaît son Rabb également en étudiant les noms et les attributs d'Allah. Quand quelqu'un... C'est pas grand-chose. Quand quelqu'un... Quand quelqu'un, il connaît qu'Allah, il est Ghafour, pardonneur, Rahim, clément, Wadoud, Allah est amour. Ben la personne aura confiance, pas confiance, la personne aura espoir en Allah. Même s'il a fait des erreurs, il sait qu'Allah va me pardonner, il va revenir vers Allah. Quand quelqu'un sait en même temps que Allah il est shadid al-iqab et qu'Allah il peut punir, Allah peut sévir, ben la personne aura la crainte d'Allah face au péché, il va s'abstenir. Mais si on ne connaît rien d'Allah, mis à part le fait qu'Allah nous a demandé de l'adorer, comment est-ce qu'on va éprouver de la dévotion pour se prosterner? Qu'est-ce qui va me motiver à me réveiller 4h30 pour faire Qiyam al-Layl? Qu'est-ce qui va me motiver à aller vers un pauvre, lui donner à manger ou lui donner de l'argent si je n'ai pas la grandeur d'Allah dans mon cœur? Et ainsi de suite. Donc la base de toute chose, c'est connaître Allah, c'est remplir les conditions de la ilaha illallah, c'est renforcer l'iman de leur cœur. Chose que les sahaba avaient appris pendant combien de temps? 13 ans. 13 ans où ils ont été formés sur l'iman à Mecca, et ils ont continué bien sûr à Madina. À Madina, c'était dans les juz'iyat de la foi, mais toute leur vie, les sahaba, ils ont travaillé leur iman, progressé dans la foi. Connaître Allah pour mieux l'adorer. Donc, la prochaine fois, comme on a dit, on n'a pas trop avancé de Gog et Magog, mais on essaie de voir un petit peu le grand manquement qu'il y a dans nos cœurs concernant la connaissance d'Allah. Il demande à Allah Azza wa Jal d'avoir pitié de nous, d'avoir pitié de nous. La seule chose qu'on peut demander à Allah, c'est d'avoir pitié de nous accepter malgré nos manquements, malgré nos faiblesses, et de nous permettre de pratiquer, de rester ferme dans la religion, que nous pouvons transmettre la religion à nos enfants, que tous nos descendants soient des ahli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, qu'Allah nous protège de ces trois grands péchés, d'être des acteurs de ces péchés ou d'être des victimes de ces péchés, qu'Allah protège notre famille, qu'Allah protège nos couples du divorce, des séparations, qu'Allah protège nos enfants des mauvaises fréquentations, des qurana assou, des personnes qui les entraînent vers le mauvais chemin, qu'Allah protège nos parents, leur accorde longue vie, que ta'a de l'obéissance en bonne santé, et qu'ils meurent avec la ilaha illallah, qu'ils soient eux-mêmes des exemples, des modèles pour nous, et qu'Allah nous réunit tous dans le Jannah. Ça, c'est le plus grand souhait du mu'min. Après, si on avait beaucoup d'argent, pas beaucoup d'argent, une belle voiture, une moins belle voiture, une villa piscine ou un F2, ça c'est pas important. Ça. Les gens ils disaient des choses que nous, les gens, pas important. Si Allah est satisfait de nous et Allah nous accorde tout ça, nous sommes les gens les plus heureux. Donc, Inch'Allah, la prochaine fois, on va continuer, on va expliquer comment fonctionne la société de Gog et Magog. C'est une société complètement structurée, comme la nôtre, exactement comme la nôtre. Preuve encore que ce sont des êtres humains. On va voir également les familles, hein, qu'ils ont femmes, enfants, culture, etc., etc. Et le thème le plus important qu'on voulait développer, franchement, aujourd'hui, c'était le lieu géographique. Où se cache-t-il? Où donc se cache-t-il? Et il y avait une carte également de livre, on aurait voulu essayer de montrer. Peut-être, là on a un peu de temps, on va scanner, peut-être projeter, on a un petit vidéoprojecteur sur le mur, voir un petit peu dans quelle région du monde il se trouve en ce moment. Et le troisième point, ce serait la description physique, à quoi il ressemble physiquement. Et quatrième et dernier point concernant l'introduction du Gog et Magog, à quelle époque précise ils vont-ils sortir? Et pourquoi ce moment-là et pas avant? Et une fois qu'on aura terminé avec ces quelques points d'introduction, là il y a un grand chapitre, grand chapitre sur l'identité de Dhul Qarnayn, ce bienfaiteur de l'humanité qui a protégé la race humaine contre Gog et Magog à une certaine époque. Donc Dhul Qarnayn, c'est une grande étape, autre grande étape, les deux endroits, les deux points culminants, hein, que Dhul Qarnayn a vu, qu'ils ont cité dans le Sourate Kahf, et puis l'apparition de Gog et Magog et leur destruction. Kalan Tawfiq, comprendre ces quelques paroles. Si quelqu'un, je ne sais pas, il me semble que c'est ce soir France-Espagne, non? Oui ou non? Il me semble. Hein. Si quelqu'un, allait vraiment, il a envie de regarder, il a envie de voir il a envie d'être déçu, il veut vraiment voir ça, mais que la personne ne rate pas Fajr à cause de ça. On ne va pas rentrer dans le débat haram, pas haram, etc., etc. On a une époque où, bon, hein, il y en a qui disent qu'il vaut mieux regarder un match que regarder n'importe quoi, ou que, Allah a'alam, que Mohamed El Akaz regarde un match, il vaut mieux que ça traîne un chemin avec je ne sais pas quel qu'était de monde, frère. Mais qu'une chose de dunya ne prenne jamais la place sur le akhirah, sur une chose de dîn, a'mal de dîn. Ça, ce serait la pire des choses. Ça, ce serait montrer à Allah que les plaisirs que j'ai, oh Allah, c'est plus important que ton adoration. Et ça ne pardonne pas, ça. Enfin, je ne dis pas qu'Allah ne pardonne pas, c'est l'expression. Ça, c'est d'une gravité. Ça, c'est une preuve d'insouciance, de rafla et d'ingratitude. Pour tout ce qu'Allah nous a donné, je montre clairement à Allah que quand j'ai ce bien, quand j'ai ce truc de dunya-là, ça passe avant ta prière de Fajr. Ça passe avant toute chose. Donc, c'est vraiment... Un jeune ou un moins jeune, il veut vraiment passer un peu de temps, se détendre, on va dire. Ça, c'est le grand concept de notre société, se détendre, d'accord. Ben, nos grands-parents ne se détendaient pas. Hein, ils sont tous devenus fous. Là, il dit qu'il ne s'y détend pas, coco, il bloque. Mais tous nos parents étaient fous. Tous nos grands-parents, ils n'avaient pas la télé, ils n'avaient pas tout ça. Ils avaient d'autres moyens, certainement. Bref. Donc, c'est vraiment une personne, hein, il veut regarder, mais qu'il fasse une niyat ferme, sincère de faire la fadj. Pas. Que bon, je dis avec match, mais garde juste vite mon petit livre, comment on appelle ça, les oreilles des prières. Cela, il lève, qu'il lève, il lève 6h28, mais il lève 6h25, mais fait mon 2 rakat, et c'est parti, c'est bon. Donc j'ai gagné 45 minutes en plus, mais là, wallah, là, wallah, jamais. Même si quelqu'un se couche tard, hein, il fait niyat que non, je me réveille pour venir à la prière de Fajj en congrégation, jama, qu'Allah nous accepte tous. Subhana rabbika, rabbil izzati amma yasifoun, wa salamun ala al-mursaleen, wa akhiru da'wana, alhamdulillahi rabbil alamin.